Eh ben donc je m'appelle Pascal et moi je suis responsable recherche et projet du Polo, Pôle des arts urbains. Ça veut dire que je m'occupe en gros de la gestion des projets du Polo.
Et le Polo,
Ouais.
justement, ce pôle des arts urbains, qu'est-ce que c'est?
Donc le Polo, c'est une asso qui a une dizaine d'années, qui a été montée avec le soutien du ministère de la Culture et qui a une mission nationale de rapprochement de deux domaines qui sont traditionnellement plutôt séparés, qui sont l'aménagement du territoire, donc toutes les politiques publiques qui concernent la fabrique de la ville et des territoires, et la création artistique, toute forme de création artistique. On essaie de créer des échanges entre ces deux domaines en ayant l'ambition que ça puisse servir à la fois à l'aménagement du territoire et puis à la création artistique.
Est-ce que le pôle des arts urbains, mais les arts urbains, comment on pourrait les définir? Parce que art urbain, on pense au graphe, on pense au...
Ouais, nous on l'utilise dans une acception beaucoup plus large en fait. Nous on entend tout l'art qui a à voir avec la ville et voilà, et avec l'urbanité même, parce que souvent on nous dit c'est la ville mais la campagne, mais en fait on travaille aussi en campagne. Donc en fait on parle aujourd'hui d'aménagement culturel pour être plus large et pour essayer d'expliquer ce qu'on fait. Donc nous on a plusieurs programmes d'action. On va à la fois travailler pour des aménageurs ou pour des collectivités locales, pour des gens qui ont en charge l'aménagement du territoire, et avec eux, on va travailler sur comment on peut faire participer des artistes aux logiques de fabrique du territoire. Et d'un autre côté, on accompagne des artistes à créer, à faire des créations qui ont à voir avec les thématiques actuelles du développement des territoires, c'est-à-dire le périurbain, la densité, les questions d'inondation, des choses comme ça, quoi. Et puis, ouais.
Et les artistes, artistes picturaux, des artistes, ça peut
Alors, tout
tout
type
être.
d'artiste, nous on a un tropisme qui vient plutôt du spectacle en espace public, du spectacle vivant en espace public, mais après on bosse depuis plusieurs années avec vraiment tout type d'artistes. Ça va du cinéma à la littérature, en passant par les arts plastiques, visuels, et puis bien sûr les arts vivants.
C'est vraiment l'art au sens large, ouais.
Ouais, et puis même aujourd'hui beaucoup de disciplines telles que le paysage ou le design, qui sont vraiment elles-mêmes des disciplines déjà à la croisée de plusieurs disciplines, voilà. Donc on essaie d'avoir une acception assez large de ce qu'est la création artistique aujourd'hui, qui en fait a beaucoup de mal à rentrer dans ces cases-là, surtout avec celles avec lesquelles on travaille. Ouais.
Et même l'architecture, du coup, l'architecture,
Bien
ça peut être
sûr.
considéré comme un art.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ben, c'est considéré
C'est
comme un
considéré comme un art, oui,
art.
d'ailleurs.
Tout à fait,
Ça
ouais.
fait une dizaine d'années que ça existe. Le but vraiment de la création, l'idée, c'est un projet qui était là depuis longtemps. C'était.
La question, c'est qu'en fait, si vous voulez, depuis une quinzaine d'années, on voit se renouveler vraiment les modes d'action artistique sur les territoires. On voit des créations qui participent vraiment aux projets urbains, c'est-à-dire des projets urbains qui ont vraiment un volet culturel, ou des équipes qui participent vraiment aux étapes du diagnostic, de la fabrique des projets, au-delà de l'embellissement, voilà, au-delà de la sculpture sur l'espace public, ils sont vraiment dans les dynamiques d'aménagement. Et donc nous, on est là pour à la fois pour documenter ça. Le ministère nous demande aussi beaucoup d'études par rapport à ça. On a rendu l'année dernière, en 2015, là, une étude nationale pour le ministère qui s'appelait le Plan Guide Art et Aménagement des Territoires. On documente tout ça, on explique tout ça. Aujourd'hui, on anime une plateforme qui s'appelle Arte Plan, arteplan.org, sur laquelle on capitalise toutes ces expériences, on en rend compte, on dit où est-ce qu'elles fonctionnent. Voilà. Donc c'est l'idée de base, c'est vraiment d'être à la cheville entre ces deux domaines, de montrer un peu comment ils peuvent fonctionner ensemble et d'essayer de le faire le plus efficacement possible en servant les uns et les autres, donc en respectant la création artistique et en respectant et en améliorant les modes de fabrique des territoires.
La structure en elle-même, c'est une asso?
Ouais, c'est une asso, ouais, tout à fait, c'est un statut associatif. Ouais.
C'est une asso et vous êtes combien à travailler au sein de cet asso actuellement?
On est une petite équipe de 4-5, variant selon l'activité. Et puis sur certaines activités, comme la Saint-Urbain dont on va parler, bah là on bosse avec des gens qui viennent nous donner un coup de main, nous renforcer sur voilà, des chargés de mission, ou des chargés d'études, ou des intermittents, ou des techniciens qui viennent nous donner un coup de main. Mais en base, on est 5, ouais.
4-5 salariés, du coup, c'est votre activité principale?
Oui, bien sûr.
C'est votre activité principale, oui,
C'est
parce qu'il y a
notre.
des assos qui peuvent être salariés de leur asso, mais quand même en activité secondaire
Ah
et qu'on. Non, vous, c'est vraiment
non, tout à fait. Ouais.
votre cœur de métier. Il n'y a pas de bénévoles qui se greffent à ça.
Non, très peu, très
Non,
peu.
c'est
Sur certains
vraiment.
événements, parfois on le fait. On fait une ville à l'état gazeux, qui est une espèce de rendez-vous urbain qu'on fait tous les 2-3 ans, hein, depuis quelques années à Tours. Et là, on prend quelques bénévoles, mais en général, non.
Et justement, il y a bien sûr la Saint-Urbain qu'on va parler un peu plus tard dans l'émission, mais vos missions, quel événement, quelle mission vous menez au jour le
En ce moment.
jour?
En ce moment, on bosse pour la ville de Paris, on travaille sur l'aménagement des portes du périphérique parisien. Donc on bosse sur l'aménagement de trois portes, porte de la Villette, porte de Montmartre et porte de l'Ourcq. Et donc on essaye de répondre aux questions de comment on peut créer métropole en faisant lien entre Paris et sa proche banlieue. Et donc on fait des réponses artistiques en faisant bosser des plasticiens, des architectes, des créateurs lumière sur ces espaces-là. On travaille à l'aménagement d'un parc à côté de Bordeaux, à Saint-Médard-en-Jalles, dans le périurbain bordelais. On essaie d'accompagner une dynamique pour la création d'un parc public de 28 hectares en zone périurbaine. Comment on fait? Comment on embarque la population là-dedans? Comment on peut proposer des processus créatifs pour créer un parc original qui réponde aux attentes de la population, qui soit bien inscrit dans ce qu'est la culture locale? Comment on embarque les assos locales dans l'affaire? Voilà, par exemple, on fait ça, mais on va aussi accompagner des équipes artistiques aussi sur leur projet de création. On accueille une quinzaine d'équipes artistiques par an.
Paris, Bordeaux, du coup, c'est vraiment national. En fait, vous agissez, vous êtes basé à Saint-Pierre-des-Corps.
On a une base à Saint-Pierre-des-Corps qui est aussi donc quel point haut, qui est un lieu de création qu'on partage avec la Compagnie Off, qui est un grand lieu de création, il fait 3500 m², donc où là on peut accueillir des répétitions, de la construction de décors ou du travail à la table, hein, et où on va vraiment travailler avec les créateurs. Et puis après, sur nos missions pour les collectivités publiques ou pour les aménageurs, là on bosse dans toute la France. Ouais.
Et ces missions, ça marche comment? C'est des appels à projets? Vous répondez à des appels à projets ou alors les gens connaissent le polo et viennent vous chercher?
Les deux. Alors après, principalement, on vient nous chercher parce que c'est en général sur des projets assez spécifiques. Quand on vient chercher un opérateur comme le nôtre, quand on se dit tiens, je voudrais de l'urbanisme culturel, ça reste quand même quelque chose d'assez original. Donc en général, c'est des gens qui ont entendu parler de nous, de nos démarches et qui viennent nous chercher. Mais après, ça se formalise souvent dans des réponses à marché public, ouais, où on va répondre avec des architectes, souvent en groupement avec des architectes ou des urbanistes avec qui on a l'occasion de travailler souvent. On fait souvent équipe avec les mêmes, en fait.
Parce que c'est assez atypique comme activité. Il y a d'autres structures en France ou plus localement qui proposent ça?
Ouais, c'était très atypique il y a une dizaine d'années. C'était très, très original quand ça a été créé en 2007. Aujourd'hui, ça l'est un peu moins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de structures qui travaillent à cette interface entre art et aménagement. Alors vraiment comme le polo, c'est-à-dire qu'il se positionne un peu en pivot comme ça avec la ressource pour le ministère, non, je crois pas qu'il y en ait d'autres, mais par contre des structures qui vont pouvoir apporter du conseil aux aménageurs pour de l'aménagement culturel, ça oui, il y en a d'autres.
Oui, parce que c'est vrai que vous dépendez du ministère de la Culture, du coup.
Ouais, tout à fait. Ouais. On est principalement subventionné par le ministère.
Ouais. C'est ça, ouais, c'est les subventions. Et du coup, il y a des projets qui viennent directement du ministère ou
Bah ouais, par exemple, la commande dont je vous parlais, là, le plan guide à réaménagement, c'est une commande du ministère en direct qui nous dit voilà, comment je peux documenter cette nouvelle sphère de la création là, que je ne sais pas trop comment attraper, qui ne répond pas justement au fameux registre des beaux-arts dont on parlait là. Avec des créateurs qui sont à la fois architectes, à la fois plasticiens, on ne sait plus où les mettre. Voilà, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Est-ce que vous pouvez nous le documenter un peu? Donc nous, on a rendu cette étude. Et qui là, maintenant, nous finance pour la continuité de ce travail de ressources avec Arte Plan, avec cette idée que voilà, faut continuer à essayer de comprendre ce domaine, comment il fonctionne, comment il peut avancer, et puis comment surtout l'État, le ministère, peut continuer à soutenir ce type de création dans ses modalités particulières.
Pour ce qui est de l'accompagnement et du soutien aux artistes, ça marche plus localement, vu que le local, le point haut, il est à Saint-Pierre-des-Corps, ou c'est aussi à portée nationale?
Ah non, ça reste plutôt national, même si on essaye toujours chaque année de garder une partie d'artistes locaux, mais comme on travaille vraiment sur un truc très spécifique qui est la question de l'aménagement, on va plutôt prendre les artistes en résidence parce qu'ils travaillent sur une thématique particulière et parce que nous, on a un intérêt à les accompagner, quoi. Ou parce que, non, plutôt, eux, ils ont un intérêt à ce qu'on les accompagne. C'est-à-dire qu'eux, ils vont y trouver quelque chose et ils y trouveront quelque chose à partir du moment où ils bossent sur une thématique proche de la fabrique des territoires. Du coup, c'est plutôt ça notre filtre. Même si, en l'occurrence, on a souvent l'occasion de travailler avec le collectif Protocole qui est de la région, le Tour Sound Painting Orchestra, des gens comme ça. Ouais.
Donc, quand même des acteurs locaux.
Ouais, bien sûr.
Maintenant qu'on vous connaît un peu mieux, on va maintenant parler de la Saint-Urbain 2016, édition 2016. Alors la Saint-Urbain, déjà, qu'est-ce que c'est?
La Saint-Urbain, c'est un événement organisé par le Polo, donc tous les ans à la fin de l'année, à la fin du mois de décembre, le 19 décembre, à l'occasion de la Saint-Urbain. Alors cette année, on ne le fait pas le 19 décembre exceptionnellement, mais le 17, pour des questions de calendrier. Le 19 comble le premier lundi, ça tombe pas très bien. Donc on fait plutôt le 17, mais en général, c'est le 19 qui est le jour de la Saint-Urbain. Et donc c'est l'idée de fêter la ville. Faire un événement convivial à la fin de l'année, fêter aussi la fin de l'année, et puis ouvrir un peu les portes du polo, parce que comme on le disait avant la pause musicale, c'est quand même une structure qui n'est pas facile à lire, qui travaille beaucoup sur la création artistique en train de se faire, et donc pas toujours visible. Il donne des conseils à des aménageurs sur des gros projets en France, mais pas forcément à Tours. Donc voilà, c'est compliqué pour nous aussi de quoi. On tient à pouvoir montrer un peu ce qu'on fait, à pouvoir apporter aussi au public tourangeau notre vision de ce lien entre art et aménagement. Et donc tous les ans, on fait cette Saint-Urbain, qui est un événement ouvert, gratuit. On invite les gens à venir au polo et à venir regarder la ville avec nous. En fait, l'idée, c'est ça. C'est venir regarder la ville avec nous, avec chaque année une thématique particulière. Donc, on a fait une collecte de photos la première année. Après, on a bossé sur des cartes sensibles. On a bossé sur la ville au féminin l'année dernière. Et donc, cette année, on est parti sur les questions relatives au cinéma.
Sur le cinéma. Ouais. Pour la 7e édition, ça fait déjà 7 ans que ça existe.
Ouais.
C'est comme vous l'avez dit, c'est le grand événement et surtout l'événement local.
Ouais, tout à fait.
Comment vous choisissez rien que le thème déjà
En fait, on part sur l'idée, c'est un peu qu'est-ce qui inspire aussi les artistes quand ils vont créer sur la ville et puis en quoi la ville nous inspire. C'est-à-dire, on va bien le voir avec la question du cinéma, c'est-à-dire comment l'événement qu'est l'urbain, c'est-à-dire cette grande densité de population, ses formes, ses réseaux, cette mobilité-là, comment elle est génératrice d'imaginaires, de symboles qui sont réintégrés dans la création artistique. Et d'un autre côté, comment la création artistique se nourrit de tout ça pour continuer à créer. Et du coup, le thème, on le choisit en disant, bah voilà, le cinéma, c'est un des vecteurs de ce truc-là. Il y en a d'autres. On a travaillé sur l'action des cartes, par exemple. C'est assez intéressant de voir comment les cartes sont des moyens de regarder le territoire par un prisme particulier et comment, dans leur renouvellement par les artistes, aussi, ils renouvellent sans arrêt cette vision du territoire. Au cinéma, il y a une grande, grande histoire de la ville au cinéma. Il y a des structures qui sont spécialisées entièrement là-dessus. Il y a un festival qui s'appelle Images de Ville à Aix-en-Provence qui travaille que là-dessus toute l'année. Donc nous, on est bien modestement, on vient parler de ça pour un événement.
L'objectif, c'est vraiment montrer la ville à travers les arts. Et pour le coup, pour cette édition, c'est le cinéma, mais à travers n'importe quel art.
Ouais, on l'a fait, je le dis, avec d'autres médias. Montrer la ville et pas seulement une photo de la ville comme ça figée, mais vraiment... ce qu'est le phénomène urbain, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce phénomène urbain? C'est vraiment ça qui nous intéresse. En quoi il est inspirant, le phénomène urbain?
Donc, on l'a dit, 7e édition sur le cinéma, c'est la première fois que vous utilisez ce média pour la scène urbaine?
Non, on a déjà travaillé sur le cinéma. Alors, jamais vraiment sur le cinéma en tant que tel, long métrage, tout ça, mais on a travaillé sur des vidéos, plus au sens de vraiment de vidéaste, avec des choses assez expérimentales. C'était la deuxième Saint-Urbain. Et il y a trois ans, on a fait une sur des courts-métrages. On a fait une nuit entière de courts-métrages. On a passé 80 courts-métrages à la suite. Jusqu'à ne plus pouvoir...
Ça fait une grosse nuit. Hein.
Jusqu'à ne plus pouvoir regarder un écran. Et donc, c'était quand même un peu particulier. Et cette année, on a décidé de faire un format plus court, 3 films, pas plus, mais voilà, de les sélectionner patiemment avec les différents complices du polo en appelant à une programmation participative. Et voilà.
Justement, il y a des partenaires qui choisissent avec vous. C'est... Parce que qui dit cinéma dit programmation pour choisir ces 3 films. Mmh.
Mais en fait, la programmation sur la Saint-Urbain, on essaie de pas la faire tout seul. On essaie vraiment d'impliquer les gens avec qui on travaille dans cette programmation. Donc, on a commencé par faire un appel à idées de films. Donc, on a envoyé ça sur les réseaux sociaux ou sur notre newsletter. On a récupéré plus de 100 idées de films qui avaient pu inspirer les uns et les autres pour leur vision de la ville, avec évidemment des grands classiques et puis d'autres surprises. Hein. Et après, on a invité un petit comité de 7 personnes, 7 collègues, 7 professionnels de l'urbain, ou donc du urbaniste, architecte ou professionnel du cinéma, à se réunir 2 fois et à regarder tous les films ensemble. Quoi, non, ils regardaient tous les films avant. Ils s'étaient séparés les films, ils n'ont pas regardé les 120 films de la liste, je crois. mais à les regarder, à donner leur avis, à dire voilà, celui-là il est plus pertinent, celui-là il est moins. Et puis comment on fait aussi une programmation avec 3 films en mettant pas 3 fois le même, quoi, en essayant de varier un peu les plaisirs et les visions.
Du coup, 3 films, on peut en parler.
Ouais.
Annoncer ces films.
On peut. Donc, alors, le premier, c'est le Métropolis de Rintaro. Donc, Rintaro, c'est un réalisateur de films d'animation japonais qui a repris le grand Métropolis de Fritz Lang, qui est évidemment revenu 1000 fois dans notre liste de films parce que c'est le grand classique de films sur la ville, qui date de 1927, donc qui est un très vieux film et qui là est réinterprété à la sauce manga, on pourrait dire. Et qui donc est toujours la même chose, hein, vraiment la cité futuriste, comment on se l'imagine, avec toutes les dynamiques de pouvoir que peut engager la ville, c'est-à-dire comment la ville elle-même classe les gens, en fait. Hein. Vous voyez bien cette chose-là, c'est de cette grande machine à faire de la ségrégation qui est l'urbain, et qui dans Métropolis fonctionne pour faire fonctionner un scénario avec cette rébellion, bon, pour ceux qui connaissent le film, et puis on retrouve vraiment tous les grands imaginaires de la ville, la ziggourate, la tour de Babel, les tréfonds de la ville, les gouffres, les conflits, voilà, c'est vraiment le film qui à notre sens représente tout ça, mais on voulait aussi en présenter un peu une vision plus, plus contemporaine avec ce film d'animation. Et puis certainement aussi plus familial, plus grand public qu'un film muet en noir et blanc de 1927.
Et puis plus original, parce que le Metropolis, ouais, ça reste un grand classique. Le Metropolis de Fritz Lang, évidemment, alors que celui-là, il est peut-être moins connu du grand public, ou ouais, du public tout court. Alors ça permet aux gens de découvrir un film...
Ouais, tout à fait, c'était vraiment ça l'idée. Et puis de faire un film d'après-midi aussi, hein, il sera passé à 15h. Donc c'était vraiment l'idée aussi de, on peut venir le voir avec ses enfants, tout ça. Bon, c'est pas très très grand public, hein, c'est quand même un film un peu violent, on n'est pas les enfants de 6 ans, mais c'est quand même un film à beaucoup plus accessible que le Metropolis de Fritz Lang. Ouais.
Justement, la cible de ces trois projections...
Bah, c'est très grand public, hein, c'est très grand public. Alors peut-être celle de 15h les plus, hein, parce que voilà, film d'animation. Grand format, presque 2 heures, avec une histoire haletante, voilà, c'est... Bon, après, que les deux autres films aussi, hein, voilà, on a cherché à faire des choses qui étaient quand même... qui n'étaient pas non plus de l'élite cinématographique, quoi. Voilà, c'était pas le but du jeu, enfin, ça, jamais... Le but du jeu, c'était plutôt vraiment quels sont les films qui ont inspiré sur la ville.
Le deuxième film...
Donc le deuxième film, c'est un film noir et blanc muet de 1927, mais qui n'est pas Metropolis, qui est Berlin, symphonie d'une grande ville, un grand classique, alors un peu moins connu, mais qui a été très très inspirant pour toutes des générations d'artistes. Une des premières fois où un réalisateur, donc Walter Ruttmann en l'occurrence, s'intéresse à vraiment qu'est-ce que c'est que cette chorégraphie de la ville industrielle, cette ville industrielle qui est en plein essor, Berlin dans les années 20, et il nous trace en une heure, une journée, De la vie à Berlin en vraiment en mettant en scène la symphonie d'une grande ville, comme dit le titre, hein, donc mettant vraiment en scène l'aspect chorégraphique global d'une ville, voilà. Et donc on a décidé de le passer en invitant le Tour Sound Painting Orchestra, qui est un orchestre de sound painting de Tours, à venir le mettre en musique. Donc ça va se passer à la Loco, pour ceux qui voient pas où c'est, au magasin général de la SNCF à Saint-Pierre-des-Corps, là où des anciens de la SNCF sont en train de retaper une locomotive justement. Et le TSO va travailler avec eux pour essayer de créer un concert autour de quoi, un ciné-concert, avec aussi les machines qui servent à réparer la loco, tout ça. Donc l'idée, c'est de se dire comment on peut mettre en musique cette symphonie, justement, mais qui est une symphonie muette. Comment on peut mettre en musique cette symphonie muette qui est Berlin, symphonie d'une grande ville.
Et du coup, ça se passe au Magasin Généraux à Saint-Pierre.
Ouais, tout à fait.
Alors que le premier, on l'a pas dit, c'est au Point Haut.
C'est au Point Haut, qui est donc le lieu du partagé par le Polo, la compagnie Off, mais c'est quasiment au même endroit, c'est à 200 mètres dans la zone des Grands Mortiers. C'est vraiment pas loin, c'est vraiment le tout début de Saint-Pierre-des-Corps.
Et un dernier film en soirée ?
Et donc un dernier film en soirée, 20h30, format plus classique. Et donc le film qui a remporté la sélection du comité, c'était pas facile parce qu'il y avait beaucoup d'idées, mais c'est un film suédois qui s'appelle Sound of Noise et qui raconte l'histoire d'un commando de musiciens un peu fous qui prennent la ville de Stockholm comme un gigantesque instrument de musique. Et donc ils font des espèces de braquages musicaux, c'est un film très drôle. Très musical aussi, et ils sont poursuivis par un agent de police musicophobe, hein, qui déteste la musique. Donc il y a un truc complètement décalé, un peu à la sauce nordique, comme on peut voir souvent, un peu farfelu et très drôle. Et en même temps, il y a c'est un film fait sur le support de la ville de Stockholm. Enfin, c'est vraiment la ville qui devient le théâtre à la fois de cet affrontement entre ce gang de musiciens et puis ce policier, et en même temps le théâtre d'une expression artistique gigantesque.
C'est le cinéma, du coup, le thème de cette édition, mais c'est quand même très musical. Donc le pôle urbain, j'imagine que le but, les arts urbains, c'est de mélanger les arts, et là ça le fait plus ou moins parce que le cinéma il passe par la musique et la programmation fait que c'est presque autant musical que cinématographique.
Oui, alors pour tout vous dire, on n'a pas tout à fait exprès. On s'est rendu compte qu'en faisant un ciné-concert sur Berlin, Symphonie d'une grande ville et puis Sound of Noise, on était beaucoup sur des thématiques musicales, mais c'était pas voulu au début. Mais c'est pas si étonnant que ça, hein. La ville, elle est aussi une inspiration musicale. Quand on parle de ville et de ce qui nous y inspire, on retrouve souvent des idées de rythme, et l'idée de rythme elle amène aussi à la musique, et c'est pas tout à fait étonnant pour nous de retrouver ça. Et dans Sound of Noise, c'est vraiment ça, on voit vraiment cette lecture urbaine qui est proposée par ce film à travers la musique. Elle est à la fois très contemporaine dans ce qu'est la ville, dans ses différentes activités, dans ses activités de business, ses activités de déplacement. Il y a un concert sur une autoroute, et puis après un concert dans une banque, et puis après dans un hôpital. Donc on voit vraiment ces différents services, cette mobilité entre ces différents services, vraiment, puis cette concentration de gens, cette vitesse. Voilà. Donc par la musique et par l'expression musicale, ils arrivent vraiment à rendre palpable ce qu'est le phénomène urbain.
Et du coup, ça peut vous donner l'idée pour l'édition 2017, ça sera peut-être la musique, l'art choisi pour mettre en valeur l'urbain. On n'a pas parlé des tarifs.
C'est pas facile de faire ça avec la musique, mais on pourrait. Ouais. Les tarifs, c'est gratuit. Après, il y a de la restauration et du bar sur place qui, lui, est payant, mais tout l'événement est gratuit.
Les projections en elles-mêmes sont gratuites. Tout on peut fait. Rappeler les lieux et les heures des différents films.
Donc, au point haut, 20 rue des Grands Mortiers, dans la zone industrielle des Grands Mortiers, à Saint-Pierre-des-Corps, à 15h pour le Métropolis de Rintaro, puis à 20h30 pour Sound of Noise, et entre les deux, à 18h, au magasin général, qui est au bout de la rue des Grands Mortiers. Voilà, dans le hangar ou avion, pour ceux qui veulent. Hangar à avion, pour ceux qui veulent.
Et donc, possibilité aussi de se restaurer sur place
Tout à fait, le soir, même l'après-midi d'ailleurs, mais tout à fait. Possibilité de se restaurer, de boire un coup sur place, et puis il y aura des pop-corns.
Il y aura des pop-corns, et il y a quelque chose d'autre en plus de ces projections
La soirée, on la veut un peu, on essaie aussi de scénographier un peu ça. On met un peu notre lieu de création en lumière, on met un peu de coton, un peu de sympathie dans tout ça, un peu de bulle, et puis on essaie de faire une soirée un peu sympa. C'est vraiment l'idée aussi de dire, vous pouvez aussi venir rencontrer ce qu'on fait. Si vous voulez voir un peu ce qu'est le polo, ce qu'on y fait, vous pouvez venir, et puis on va pas fermer les portes à la fin de Sound of Noise, on va faire une soirée ensemble, et puis on va mettre un peu de musique, et puis on sera bien, puis on pourra papoter, puis on pourra boire des coups.
Ouais, l'idée c'est vraiment de partager, de montrer vraiment ce que vous faites, vu que c'est pas que local et que là pour le coup on a l'occasion de voir, c'est vraiment dans cette optique là le partage.
Ouais, et puis de pouvoir discuter aussi des projets qu'on mène et puis d'autres choses, et puis de parler de la ville, de ce qu'inspirent les uns et les autres par rapport à ça, et puis de fêter aussi la fin de l'année, et puis après de partir en vacances pour aller manger du foie gras.
Et bah tout ça c'est samedi. Samedi 17 à Saint-Pierre-des-Corps, le rendez-vous est noté. Moi je vais vous remercier Pascal d'être venu dans l'émission ce soir pour nous parler de la Saint-Urbain édition 2016, La Ville au cinéma.
Et bah merci à vous.